RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour les GG, pour les grandes gueules, avec aujourd'hui le cheminot Bruno Poncet, avec l'enseignante Barbara Lefebvre, avec le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers, et nous accueillons notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Marion Maréchal, Si tu te sens Le Pen aux éditions Fayard. Bonjour,
bonjour
Marion Maréchal. Mais vous avez un chevalier servant?
Ah oui, qui est-il? Ça m'intéresse.
Il y a une très belle photo de vous avec ce chevalier servant, avec une coupe de champagne à la main.
C'est, chevalier servant, c'est beaucoup dit.
C'est Jordan Bardella, coupe de champagne à la main dans les salons du Plaza Athénée. C'est la grande réconciliation.
Allié politique indéniablement. Bah écoutez, oui, j'étais heureux. Cette soirée de lancement a été l'occasion de réunir Jordan Bardella, qui m'a fait l'amitié de sa présence, mais également Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti. Donc à certains égards, le symbole d'une coalition des droites que j'appelle de mes voeux et qui est de bon augure pour la suite des événements et des prochaines échéances électorales.
D'accord. Avec Bardella et bientôt votre tante ou pas alors aussi.
Alors Marine Le Pen devait être présente. Elle s'en est excusée publiquement d'ailleurs et elle a eu gentillesse d'avoir un mot amical pour mon livre sur les réseaux sociaux, mais c'était un imprévu. Elle devait être présente.
On va parler de votre livre Si tu te sens Le Pen, parce que pour une fois c'est un livre plus personnel. Je dis pour une fois par rapport aux livres politiques que l'on reçoit et qu'on est obligé parfois de lire avec difficulté. Là, au moins, il y a du perso et ça a plu d'ailleurs à certaines grandes gueules. Mais un mot quand même, parce que les chiffres sur l'immigration sont tombés cette semaine. 4,5 millions de titres de séjour en France. Jamais la France n'a accueilli autant d'étrangers sur son territoire. Pour vous, c'est un cauchemar, j'imagine, quand vous avez vu ces chiffres que vous connaissez.
Déjà, je vais vous dire, c'est pas une surprise, hein, parce que cette trajectoire, elle va en s'aggravant depuis maintenant des décennies. Maintenant, c'est un sujet que je considère très grave. Oui, il faut imaginer, si je devais vous donner une image, que c'est l'équivalent de la ville de Paris, Lyon, Toulouse, Marseille en même temps, et en termes de nombre qui correspond au titre de séjour actuellement présent sur le sol français. Et ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'au-delà des incidences culturelles, on va dire, y compris sécuritaires, on a moins parlé ces derniers temps, alors qu'on était en pleine phase budget, des incidences justement économiques. Parce que ce dont on parle moins, c'est que l'immigration a un impact et un surcoût sur de très nombreuses politiques publiques, ce dont le gouvernement n'a pas du tout parlé à l'occasion du débat budgétaire, alors qu'il a même émis lui-même un document dans lequel il évalue ses surcoûts. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Mais par exemple, sur les élèves allophones du premier et du second degré, donc les élèves qui ne maîtrisent pas la langue française et à qui on doit donc donner des cours de français supplémentaires, ça représente 265 millions d'euros par an. C'est quasiment 9000 postes de professeurs. Les aides juridictionnelles à l'égard des étrangers qui, pour une grande partie, sont utilisées justement pour faire des recours contre l'État dans le cas des expulsions, 53 millions d'euros. Chaque nuit en Île-de-France, c'est 52 000 lits qui sont payés pour des migrants, soit plus d'un milliard d'euros par an.
La Cour des comptes avait calculé tout ça et avait dit finalement ça s'équilibrait entre ce que peut rapporter l'immigration et ce que coûte l'immigration.
Oui,
finalement, la France n'était pas perdante. C'est un rapport de la Cour des comptes.
Il y a un grand débat là-dessus, mais vous savez aussi qu'il y a de très nombreuses études, notamment de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui au contraire fixe le coût de l'immigration en tout cumulé à près de 40 milliards d'euros par an. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça restera, selon moi, le sujet central et décisif des échéances à venir, parce que les implications sont structurelles et qu'on vient d'apprendre, je sais qu'on en a longuement parlé sur votre plateau, que si on continue sur ce chemin, les Français seront bientôt plus pauvres que les Polonais en moyenne, ce qui est quand même un drame. Et donc si on ne traite pas indirectement, y compris ces questions du coût de l'immigration et de l'impact sur les politiques publiques, malheureusement on passera en grande partie à côté du sujet.
Barbara, Bruno, Emmanuel.
Barbara a lu le livre et l'a apprécié, paraît-il.
Oui, je voulais vous dire, ici, en effet, on est souvent amené à lire des livres de politique, qui sont des livres prétextes pour faire des petits plans com, voilà. Pas toujours d'ailleurs écrits par eux-mêmes, ça se sent quand on les lit, c'est pour ça qu'on les lit vite. Vous, il y a à la fois la forme, c'est un style qui est direct, mais qui est élégant et qui fait appel à des références littéraires qui sont des références littéraires dans lesquelles on sent un certain souffle. Donc c'est assez rare et surtout on sent que c'est vous qui l'avez écrit, parce que dans le fond, c'est aussi un livre que j'ai trouvé passionnant, parce que vous éclairez votre parcours personnel, vous racontez notamment, et je pense que c'est pour ça que le titre est très bien choisi.
Si tu te sens Le Pen.
Si tu te sens Le Pen, c'est la fin d'une lettre que votre grand-père vous écrit pour vous lancer, vous pousser à rentrer en politique. Et je trouve que vous expliquez assez bien la particularité de ce clan Le Pen qui a été à la fois beaucoup confronté à beaucoup d'adversités sans pour autant se victimiser. Vous rappelez ce qu'ont vécu vos tantes enfants, mais aussi pétri de rancœur, de colère, de disputes catastrophiques, mais aussi de capacité à se réconcilier. Donc aussi une histoire familiale qui est intéressante, voilà, et qui est aussi très souvent caricaturée. Donc là, vous donnez votre point de vue et c'est intéressant, mais aussi votre parcours politique. Et je trouve que la façon dont vous racontez votre parcours politique, vos choix, un peu parfois vos errances, parce que vous le reconnaissez, vous avez fait quelques erreurs. Bien, en fait, c'est
lesquelles ?
Ben, notamment, je pense le choix de rejoindre Éric Zemmour, hein, ça a été quand même relativement une erreur. Mais bon, vous apprenez de vos erreurs apparemment. Néanmoins, je trouve que cette rigueur.
Vous regrettez d'avoir rejoint Éric Zemmour ?
Non, j'ai pas de regrets. Ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que j'en tire un certain nombre de leçons, mais voilà, si je devais le refaire, je le referais, parce qu'au final, j'en ai beaucoup appris.
Mais alors, justement, dans votre livre, vous citez Jean Raspail qui dit que la politique, c'est l'homme face aux événements. Alors, vous, est-ce que vous allez être la femme face aux événements? C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette union des droites que vous appelez de vos voeux, qu'apparemment aucun des grands caciques qui se trouvent autour de vous, même quand pour certains ils ont un micro-parti, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez, à un moment ou à un autre, décider d'être la femme qui va vraiment réussir cette union des droites en dépit de certains des hommes d'ailleurs qui vous entourent, parce que je ne sais pas si c'est vraiment votre tante qui fait obstacle à cette union des droites, si c'est pas plutôt tous les hommes qui sont autour et qui font obstacle à cette union des droites.
Vous l'avez compris, ça n'est pas un livre de candidature, c'est un livre de vision, de la place d'ailleurs que je souhaite donner à cette vision dans les prochaines échéances, parce que cette vision je la défends depuis près maintenant de 15 ans. C'est évidemment aussi une méthode, parce que je parle de la manière dont je verrais en effet la possibilité d'accéder au pouvoir. Donc c'est aussi ma contribution, si je puis dire, dans le débat public. Et puis aussi, bah, vous l'avez relevé, et je vous remercie pour vos mots, parce que c'est une belle récompense à toutes ces heures de travail, le point de vue que je peux donner.
C'est vous qui l'avez écrit, ce
livre. De choix que j'ai fait.
Soit, oui.
Moi, je pense que pour ceux qui me connaissent un peu, ils me feront pas le procès de pas l'avoir écrit. Et même si j'ai mis un an et demi à l'écrire, hein, donc évidemment, voilà, les sujets sont très variés, donc j'aborde beaucoup de choses et c'est très dense et on pourra parler de tout aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de faire en sorte, et je l'ai dit à travers le sujet de l'immigration, de faire comprendre aux Français que l'échéance à venir est une échéance historique vitale, déterminante. Et donc moi, mon but dans tout ça, et je pense que c'est ce qui est relevé dans le livre, c'est pas de courir derrière la première place. Voilà. Moi, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice, d'être l'une des pièces du puzzle pour demain permettre la victoire. Je continue de penser qu'aujourd'hui, bah, le Rassemblement National est le parti le mieux placé, et donc il est assez naturel, si vous voulez, que du coup, le candidat du Rassemblement National soit le chef de file finalement de cette coalition.
Marine Le Pen, si c'est elle qui est candidate. Ça dépendra aussi de l'issue de son procès, ne veut pas être celle qui porte l'union des droites. Elle a dit, je suis ni droite ni gauche.
Après, il y a un débat sur les mots, mais indéniablement, dans les actes qui sont posés depuis maintenant des mois et des mois, et notamment à travers le ralliement d'Éric Ciotti, à travers la présence des uns et des autres à ma soirée de lancement, on voit bien que les choses aujourd'hui sont en train de bouger dans le bon sens. Et il me semble d'ailleurs que les LR eux-mêmes vont peut-être être amenés à devoir rendre des comptes sur le choix qu'ils ont fait ces dernières années, c'est-à-dire l'alliance avec le macronisme qui les a conduits à l'impuissance.
Et notamment le fait de ne pas avoir censuré le budget, le Cornus, c'est une faute historique.
Regardez le résultat, ça les a conduits à l'impuissance et au reniement, puisque sur le budget, on voit bien que c'est les socialistes finalement qui ont eu le dernier.
Vous montrez bien qu'à l'Europe, vous travaillez de concert avec François-Xavier Bellamy, Bardella et vous.
Et c'est exactement ça. J'essaie de montrer qu'en Europe, on y arrive et donc on doit pouvoir y arriver en France.
On a peu de temps, donc chacun va parler. Bruno Poncet.
Moi, ça va être rapide. Alors, moi, je l'ai lu. Hein. Alors, je vais vous cacher. Ça sera pas mon livre de chevet.
Je m'en doute.
On est bien d'accord. Après, moi, ce que j'ai vu dans votre livre, c'est plutôt l'envie de reprendre le business familial. C'est-à-dire que vous savez que votre tante, malheureusement, pour elle, mais bon, je pense que la justice va faire son travail. Et vu ce qui se passe en ce moment au procès, je pense que ça, on va régler le problème rapidement. Votre tante ne pourra pas se présenter. Je pense pas que vous pensiez que la ligne Bardella soit la vôtre. Et j'ai l'impression que vous voulez reprendre le truc en disant, ben, moi, ce que j'ai lu de ça, c'est quand votre grand-père vous met un peu au challenge, vas-y, si t'es une Le Pen, ben vas-y. Ben, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est que là, vous êtes en train de vous dire, l'union des droites, c'est ce que vous portez. Alors là, effectivement, on peut pas cacher, ça, vous avez toujours porté ce message-là, c'est clair. Moi, c'est à chaque fois que vous venez, je suis quasiment là, chaque fois en face de vous. J'ai l'impression que c'est fait exprès, je sais pas pourquoi. Ouais, je pense qu'ils essayent de me convertir, mais ça marche pas pour l'instant, hein. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train d'expliquer que 2027, Bardella passe ou passe pas, mais vous serez là derrière, ce que vous voulez faire. Moi, je pense que vous voulez reprendre un peu enfin ce côté-là de l'échiquier politique, vous voulez le reprendre et parce que à un moment donné, j'ai l'impression que vous voulez reprendre la main derrière votre.
Écoutez, moi, vous avez employé le mot business. Moi, je fais pas de business en politique. Preuve en est d'ailleurs, si j'avais fait du business, j'aurais pas quitté la vie politique comme je l'explique en 2017 pour faire autre chose pendant 5 ans et j'aurais fait le choix.
École que vous avez montée.
Voilà. Et si je faisais
c'était
du business,
quand même,
et si
j'avais pas. Vous êtes parti faire vendre des tomates.
J'ai renoncé à me faire réélire député, une élection qui était, je pense, tout le monde me le concédera quasiment acquise. Et j'ai démissionné de mon mandat de conseiller régional et j'ai fait complètement autre chose pendant 5 ans. Et si je faisais du business, j'aurais pu avoir la facilité de revenir au Rassemblement national, hein, qui était en effet, on va dire, famille politique assez naturelle. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu être plus en cohérence avec la stratégie à laquelle je croyais et je crois toujours, la coalition des droites et la ligne qui est la mienne. Donc j'ai pas du tout une approche business. De fait, je raconte une histoire parce que moi, je m'inscris dans un héritage politique et familial. Que ça plaise d'ailleurs ou pas. J'explique d'ailleurs dans ce livre comment, en quoi je perpétue cet héritage, en quoi je le réinterprète aussi, et en quoi je le dépasse à certains égards.
Et chez les Le Pen, on pouvait pas penser différemment?
Ah si, absolument. Ah. D'ailleurs, preuve en est, à certains égards, vous avez jusqu'ici trois Le Pen qui se sont engagés en politique et trois versions du lepenisme, si on peut dire ça comme ça, même s'il y a une ligne directrice.
J'ai pas vu chez les Le Pen une gauchiste. Voilà,
non, mais il y a une ligne directrice qui est toujours celle, par contre, du patriotisme et de la défense des intérêts de la France.
Il est parti avec Maigret, n'est pas engagé aussi en politique.
Non, mais c'est pour ça que je le raconte dans le livre. Il y a aussi, à travers cette histoire politique, beaucoup de divergences politiques. Il y a des conflits politiques aussi qui ont parfois même divisé jusqu'à ma propre famille. Et je peux vous dire, étant 9 petits enfants, qu'un certain nombre ne sont pas forcément alignés. Donc
c'est les enfants qui
il n'y a aucun impératif. Par contre, on est éduqués dans un environnement.
Est-ce qu'il y avait une pression aussi chez vous?
Non, il n'y a pas de pression. Par contre, ce qui est vrai, c'est ce qui ressort de la lettre que je publie de mon grand-père. Mon grand-père nous a toujours enjoint à une forme d'exemplarité en disant mais attendez, on demande à des gens, à des militants d'aller se saigner, de prendre de leur temps bénévolement et à l'époque d'ailleurs, et c'est encore vrai malheureusement dans un certain nombre de territoires, de prendre des risques parfois physiques, parfois dans leur vie sociale. Vous ne pouvez pas, vous, avec l'éducation que vous avez reçue et le nom que vous portez à certains égards, ne pas montrer l'exemple. Voilà, c'était l'état d'esprit qu'il avait.
Et pourquoi ne pas redevenir Marion Maréchal Le Pen?
Excusez-moi, j'ai pas entendu.
Pourquoi ne pas être Marion Maréchal Le Pen?
Alors, l'histoire de ce nom, on m'a fait beaucoup de procès là-dessus, je le raconte aussi dans le livre. Moi, j'ai un lien particulier avec le nom Le Pen, puisque l'histoire de ma naissance a voulu que je me suis appelée Marion Le Pen pendant 3 ans avant de m'appeler Marion Maréchal. Donc, j'ai toujours porté les deux noms sur ma pièce d'identité. Lorsque je suis rentrée en politique, même si mon nom civil est Marion Maréchal, j'ai pris le nom Marion Maréchal Le Pen un peu comme un nom de guerre. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai quitté la vie politique.
Maréchal, c'est le nom de l'homme qui vous a élevé.
Qui m'a adopté, absolument, qui est mon père aujourd'hui, mais qui n'est pas mon géniteur. Pour reprendre ce terme très laid. Voilà. Et donc, la réalité est que, quand j'ai quitté la vie politique, j'ai voulu symboliquement marquer le coup et donc laisser de côté ce nom de guerre. Maintenant, Marion Maréchal s'impose, mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les adversaires politiques régulièrement me disent « Ah, on vous appelle Marion Maréchal Le Pen pour vous mettre mal à l'aise ou essayer de vous gêner aux entournures. » Mais moi, j'assume parfaitement ces deux noms, j'ai pas de difficulté.
Un mot simplement, puisqu'on parle du livre, après Emmanuel, je laisse, mais il y a un moment important dans votre vie que vous avez vécu, c'est ce fameux accident de voiture avec votre mari. Et vous en parlez, pourquoi c'était si important? Au-delà du fait que vous auriez pu y laisser la vie.
Il y a plusieurs événements en fait qui ont percuté ce livre et qui ont contribué à le façonner, si je peux dire. Le premier, c'est la sortie des élections européennes qui ont été une élection exigeante et compliquée pour moi. La première en tant que tête de liste nationale, avec la rupture douloureuse avec Éric Zemmour, sur laquelle je reviens. Deuxième événement, c'est la dissolution, avec l'espoir immense d'une victoire de la coalition nationale et puis un échec qui appelle quand même à une réflexion, une remise en question. La mort de Jean-Marie Le Pen, avec lui toute une époque, malgré tout. Et puis l'inéligibilité de Marine et l'inquiétude de toute une famille qui s'est battue depuis des années derrière elle. Et c'est vrai, cet accident qui, en fait, a été un moment de maturité personnelle. C'est-à-dire que j'essaye de raconter quand on voit la mort en face, littéralement, et qu'on y échappe, par chance. C'est vrai qu'on ajoute de pas tant de jours à la vie que de la vie au jour, quoi. Et en fait, ça décuple en fait son envie de donner du sens au quotidien, à son engagement et de faire le maximum tant qu'on en a encore la force.
C'est quel encore l'accident ou pas?
Je me traîne quelques petites douleurs et j'ai eu des côtes cassées et voilà. Donc, mais je m'en sors très très bien, objectivement.
Alors, Emmanuel. Moi, je dirais très brièvement que c'est un livre remarquable et important. J'engage tous les gens qui s'intéressent à la politique, quel que soit leur bord, à acheter et lire ce livre parce qu'il y a un contenu politique, un contenu de réflexion, un éclairage intime qui est tout à fait remarquable. Je dirais, pour le résumer en quelques mots, sensibilité et esprit de vérité, aussi une catharsis personnel et politique, car compte tenu de votre parcours avec votre adoption, etc., vous exprimez publiquement beaucoup de choses qui vous font plaisir de rendre public. Et puis, au plan personnel, votre culture de l'adversité. Au plan politique, évidemment, la saga Le Pen, avec votre prisme qui est complémentaire, qui est assez inédit. Vous êtes pour l'union des droites, c'est votre cheval de bataille. Mais vous rappelez qu'il y a 10 ans, presque jour pour jour, votre tante Marine Le Pen avait proclamé mot pour mot « Nous, on n'est pas de droite, on est le camp national ». Alors moi, une simple question, un peu polémique quand même, compte tenu de notre émission.
Je vous pardonne, vu la présentation.
Marine Le Pen a-t-elle eu raison de vendre le Front National en viager à M. Bardella ?
Oui. En effet, c'est polémique parce que le parti n'a en aucun cas été vendu puisque Jordan Bardella a été élu à la tête du mouvement par la voix des adhérents et d'ailleurs très largement élu. Donc je crois que là, pour le coup, on est face à un choix qui est un choix démocratique. Et vous accorderez quand même quelque chose à Marine Le Pen. Moi, je me cache pas d'ailleurs dans le livre des différences idéologiques ou stratégiques que je peux avoir avec elle, mais accordez-lui quand même quelque chose, quand même peu de responsables politiques qui assurent leur succession comme l'a assuré Marine Le Pen. En général, les chefs politiques, ils ont plutôt tendance à couper la tête de tous ceux qui arrivent derrière. En cela, on peut quand même lui accorder qu'elle a une certaine hauteur de vue.
Oui, mais ce qui est assez effarant, et on n'a jamais vécu ça dans la vie politique française, c'est qu'on a deux candidats qui pourraient être les deux favoris de la présidentielle, si on regarde les sondages, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. On ne sait pas lequel finira par l'être. On attend une décision de justice. Est-ce que c'est les mêmes pour vous, ou quand même, il y en a une ou un qui a plus de chances d'être élu?
Bah écoutez, moi, alors je vous parle, évidemment que je souhaite que Marine Le Pen puisse être candidate. C'est la réponse d'ailleurs bien légitime que fait Jordan Bardella. Je ne suis pas maître de la décision finale. J'espère que les juges là-dessus laisseront le choix aux Français de pouvoir choisir le candidat qui leur sied. Maintenant, j'ai envie de vous dire, quelle que soit l'issue finale, de toute façon, on fera tous la campagne ensemble. Je l'ai dit assez naturellement,
donc, si
derrière
c'est
le parti leader
qui se présente, ça sera votre candidat.
Et donc, bien sûr. Et donc, le sujet maintenant est de savoir quelle équipe autour de Jordan Bardella, quelle équipe la plus large possible. Vous savez, moi, voilà.
Il a
que l'épaisseur j'en pense
pour être président de la République,
sujet.
Franchement.
Écoutez, il y a beaucoup d'interrogations sur son âge, son manque
dans
d'expérience.
Dans votre livre, vous soulignez justement la question de, et vous évoquez vous-même, l'idée qu'il faut avoir un certain âge pour accéder aux plus hautes fonctions.
Oui, bien sûr. Et j'ajoute d'ailleurs qu'il y a évidemment des exceptions et qu'il y a des gens dont le talent n'attend pas le nombre des années. Indéniablement, Jordan Bardella fait preuve d'une précocité indéniable et puis d'une volonté. Le tout maintenant étant en effet au-delà de lui et du candidat, et ça vaudrait
pour être président
et ça vaudrait
de la
Marine Le Pen.
Est-ce qu'il a l'étoffe pour être président
de
la République?
Oui, je le pense, mais pour cela, il faut se donner les moyens une fois de plus d'avoir une équipe qui est aussi à ses côtés, la plus complémentaire et la plus large possible. Mais ça va au-delà de moi, j'ai envie de vous dire.
Oui, mais
vous
c'est
savez,
Jordan Bardella,
moi, je plaide...
aussi qui a empêché que vous reveniez au Rassemblement National, qui a empêché que votre ligne puisse s'exprimer au Rassemblement National. Marine Le Pen était d'accord pour que vous reveniez l'exprimer.
Évidemment qu'il y a eu des incompréhensions. Évidemment que la vie politique est faite de fractures et d'oppositions et de ruptures. Voilà, je vais vous dire, moi j'ai eu des moments très compliqués avec Éric Zemmour. Ça m'empêche pas aujourd'hui de dire que demain il faudrait aussi trouver un chemin pour pouvoir travailler avec Reconquête. Vous l'avez relevé, Barbara Lefebvre, et à juste titre, au Parlement européen nous y arrivons avec des résultats très concrets pour la défense des intérêts français. Par pitié, que nous tirions exemple de ça et que nous arrivions à le faire au niveau national, la situation est trop urgente.
Une dernière question. Vous avez une concurrente?
Oui, dites-moi, j'en ai beaucoup, mais...
Non, mais une qui est un peu même votre profil, votre âge, Sarah Knafo.
Oui, est-ce que c'est une concurrente? Voilà, je le prendrai pas comme ça. Aujourd'hui, Sarah Knafo fait un chemin à Paris. Personne lui enlèvera d'ailleurs son dynamisme. Maintenant, moi, il y a une chose qui m'interroge sur son choix stratégique à Paris, c'est d'expliquer, puisqu'elle l'a laissé sous-entendre assez clairement, que si jamais elle était qualifiée au second tour, elle pourrait se désister pour Rachida Dati, puisque Rachida Dati ne veut pas de fusion, ça a été dit très clairement, avec elle. Moi, je vous le dis très franchement, je n'ai pas confiance en Rachida Dati seule, alliée au macronisme, parce que c'est ce qui va se passer, pour garantir une politique de droite à Paris. Je vois ce qu'elle fait, ou plutôt ce qu'elle ne fait pas au ministre de la Culture, je vois son bilan en tant que garde des Sceaux, donc j'ai envie de vous dire... C'est pour ça que d'ailleurs que je pousse aujourd'hui et je soutiens Thierry Mariani, parce que je considère qu'il faut au contraire que le camp national rentre au Conseil de Paris pour être l'empêcheur de tourner en rond, pour être le faiseur de roi et forcer Rachida Dati à avoir la garantie d'un groupe qui l'obligera à avoir une vraie politique de droite.
Merci Marion Maréchal. Merci. Si tu te sens Le Pen aux éditions Fayard, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, suite des GG, on va revenir justement sur ce que vous préconisez, l'union des droites. Jordan Bardella peut-être mieux placé que Marine Le Pen pour gagner à l'Élysée. On va en discuter avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, avec Bruno Poncé, avec Emmanuel Devilliers et attention les amis, avec Karine qui est avec nous de Haute-Garonne. Bonjour Karine.
Bonjour.
C'est vous qui avez été tiré au sort, c'est vous qui gagnez les vacances Bellambra, Karine.
Ah mais super, je suis super contente.
Ma chère Karine, vous gagnez un séjour d'une valeur de 2000 euros à la mer ou à la montagne. Vacances entre amis ou en famille, vous partez avec qui vous voulez. Et c'est du tout compris premium, ma chère Karine.
Et super, je suis super contente. Je vais partir avec mon conjoint et mes deux enfants. Je suis trop contente.
Vous avez mer ou montagne, vous avez une petite idée ou pas?
Oh, je pense que ça sera la mer parce qu'on est déjà à la montagne, donc ça sera la mer.
Eh ben, profitez bien de ces vacances, ma chère Karine. Et puis, on vous joint aussi le livre des Grandes Gueules, 20 ans de succès, les Grandes Gueules, aux éditions de l'Archipel. Comme ça, vous serez tranquille, vous pourrez bouquiner, vous pourrez lire tranquillement, ma chère Karine.
Eh ben, merci beaucoup, merci à vous. Et continuez comme ça, je vous écoute presque tous les jours.
Super. Merci Karine, et encore félicitations pour ces vacances. Bien.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
On va revenir quand même sur ce que nous a dit Marion Maréchal là maintenant, que l'on a écouté attentivement. Marion Maréchal avec ce livre là, Si tu te sens l'open, aux éditions Fayard, dans lequel elle prône toujours, c'est son grand combat, l'union des droites. Alors t'as tiré l'attention, Barbara, sur qui empêche cette union des droites aujourd'hui? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est autour d'elle, alors que peut-être du côté de Jordan Bardella on aurait plutôt envie de la faire, cette union des droites?
Non, mais
et d'Éric Ciotti aussi,
je sais pas, parce que je pense que ce qui est intéressant justement, c'est qu'elle raconte aussi les coulisses de ce qu'a pu être à la fois le FN finissant évidemment et le RN, et comment par exemple quand vous avez des gens comme Philippot à un moment donné ou comme Bardella maintenant, Marine Le Pen, je pense que quand elle donne sa confiance à quelqu'un, comme quand elle a donné sa confiance à Philippot ou quand elle donne sa confiance à Bardella, je pense que c'est une femme politique qui est vraiment respectueuse de la confiance qu'elle donne. Et c'est pas le genre de femme qui ensuite va venir toutes les cinq minutes vous dire t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça, etc. Et du coup, je pense que ça a mis Marine Le Pen parfois dans des positions où elle s'est retrouvée à dire qu'elle était pas pour l'union des droites, alors que je pense que je pense que Marine Le Pen en soi, elle est pas contre l'union des droites. C'est pas elle qui est contre l'union des droites. Je pense que c'est tous les petits barons qui, eux, ne voudraient pas voir leur petite clientèle se trouver subdivisée par une union des droites. Mais je pense que Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui voit loin, qui voit justement l'intérêt de la France, comme Mélenchon voit l'intérêt de la France aussi, chacun dans leur style.
Union des droites, très bien, mais est-ce que le Rassemblement National est véritablement de droite, puisque le programme économique, selon tous les observateurs, est à connotation socialiste. Quand on parle du retour de l'ISF, laisse-moi exprimer quelques secondes, quand on reparle du retour de l'ISF, c'est un cancer pour la France, parce que c'est la fuite des possédants, c'est la fuite des créateurs de richesses, ceux qui ont déjà et ceux qui vont créer de la richesse. Et c'est la paupérisation de la France, c'est l'abaissement de la France. La politique de l'autruche sur l'âge de la retraite et tout un tas d'aides, d'assistanat, qui est le fonds de commerce dans les milieux populaires pour gagner les élections du Rassemblement National. Est-ce que ça, c'est l'union des droites? La réponse est non. Oui, et au pouvoir, on se casse la gueule, on n'aura pas l'argent pour financer tout
Emmanuel,
ça.
Emmanuel, moi, je vois une différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je pense que Jordan Bardella incarne plus ce que tu appelles l'espèce de droite libérale, etc. Donc, si c'est lui le candidat, il pourra plus facilement l'incarner. Après, je pense qu'il y aura, au sein du RN, des dissensions. Qui fera le programme? Si c'est Jean-Philippe Tanguy qui fait le programme, Jean-Philippe Tanguy, c'est un souverainiste de gauche. C'est sûr que ça va être plus compliqué. Mais à mon avis, c'est on nous vend l'évidence que si Marine Le Pen ne peut pas y aller, Bardella sera le candidat naturel. Je pense qu'au sein du parti, ça va quand même secouer.
Oui, mais ce sera programme. Ce sera
arbitré. Sur la réforme des retraites, il va falloir qu'il tranche.
Ce sera arbitré. Vous croyez Ciotti, il est plutôt d'accord avec ça. Et ben il a pourtant rejoint Marine Le Pen. Il a pas fait la fine bouche.
Et je rebondis sur le propos très important Olivier Truchot à l'instant, il faut que Bardella il prenne son bâton de pèlerin et revisite tout ce programme néo-socialiste.
Et ce qui est intéressant sur l'union des droites, c'est que quand tu interroges les électeurs de droite et tu inclus des LR, etc., ils sont plutôt favorables. Or, aujourd'hui, les responsables LR disent non. Même Bruno Retailleau dit pas question de s'allier avec le Rassemblement national.
Par ailleurs, si Marine Le Pen était élue elle pourrait pas ensuite gagner les législatives complètement seule. Elle aurait des alliés.
Donc elle va se faire
elle arbitrera aussi sur des questions budgétaires. Ils vont qui vous dit qu'elle va mettre en œuvre la politique de Tanguy
en fait,
ou d'autres. Non mais
ah ouais, elle sera amenée. Oui mais alors elle fera comme les autres, c'est-à-dire qu'elle en campagne elle racontera un truc et non, puis une fois au pouvoir elle fera
parce que déjà je pense pas du tout qu'en campagne le programme économique du Rassemblement National ressemblera au programme économique du RN de 2022.
Je sais pas mais moi j'ai
parce que même eux ils sont conscients
des l'impôt sur la fortune là, ils étaient enthousiastes pour expliquer leur truc là.
Je sais pas, moi j'aurais
tout coulé. C'est pour les entreprises étrangères.
Non, pour les particuliers allant jusqu'à voir les meubles chez les gens. Non mais attends, c'est grave quand même.
Ça, tu flippes là. Là, tu flippes pour ces meubles. Et la marqueterie là.
Que le buffet là.
Ah ouais.
Et l'armoire.
De payer ces meubles, de payer des impôts sur les meubles des gens qui sont morts pour la France. Non, mais c'est ça l'idée du Rassemblement National.
Emmanuel, t'as un petit buffet de Clovis qui, à mon avis, doit valoir un bras.
Je paye là, il rentre, il a le tournevis, il est en train de démonter tous les buffets.
Chérie, loue un box, on fout les meubles dans le box.
Non, il les a mis en vente.
Est-ce qu'on n'est pas tout simplement, j'en sais rien, mais en train de nous vendre là simplement une histoire, une espèce d'en même temps au Rassemblement National. Parce que regarde, on a Jordan Bardella, qui va voir le MEDEF, qui fait son tour de France, et on nous vend le libéral, et puis à côté on a le régalien avec Marine Le Pen. Donc on est en train de nous vendre le en même temps du Rassemblement National.
Et on a aussi le en même temps diplomatique de Monsieur Bardella, parce que moi j'oublierai pas les commentaires de Monsieur Bardella sur la souveraineté européenne. Il nous a fait Macron bis au moment du Groenland. Alors ça, moi j'oublierai pas.
Ah bah surtout qu'il a critiqué Trump
et l'Ukraine.
Il aurait pas dû.
Et sur l'Ukraine aussi, il est pas très net, Bardella.
Ils sont en train de se détrumpiser.
Moi je suis. Rappelez-vous ici, je lui ai dit.
C'est vrai.
Et il a dit non, la France n'aime pas, les Français n'aiment pas l'excès.
Donc là, pour le moment,
je crois qu'il se chiraquise. Il se chiraquise et ça finira en Jacques Chirac.
Alors, il a
version.
En résumé, il a pas la carrure. S'il doit être élu, on fera avec. Mais bon,
ne crie pas,
Emmanuel. Pourquoi tu ne cries pas, Emmanuel?
C'est la passion qui t'anime. Alors,
il n'a pas la carrure.
Il a peur pour l'horloge.
Si jamais il doit vraiment être élu, on essaiera de faire avec. Mais vu le président actuel avec ses lunettes de soleil, on peut quand même être perplexe.
Bruno.
Non, mais moi, par contre, quand tu lis son bouquin, tu sens. Bon, elle explique sa vie. Elle a 35 ans, je crois, une trentaine d'années. Elle explique sa vie. On la connaît, sa vie, parce que de toute façon, elle est sous les feux de la.
Non, on la connaît pas.
En fait, elle est sous la lumière et elle, sa vie est assez racontée depuis qu'elle s'est mise en politique. Mais par contre, tu sens bien qu'effectivement, je pense qu'elle veut reprendre la main sur le. Parce qu'elle sait que sa tente, c'est fini. Hein. En fait, aujourd'hui, tu vois, tout ce qui sort du tribunal fait qu'aujourd'hui, en fait, on sait que sa tente, c'est fini. Elle sait que Bardella va y aller. Elle sait que Bardella a la boule de ne pas le dire.
Non, mais
t'inquiète pas, on en reparlera. Elle sait que Bardella, il va prendre une cartouche parce qu'elle le voit. L'histoire, c'est peut-être anecdotique chez Léa Salamé de dire ah bah là, mais quel dynamisme, machin. Ouais, mais en fait, elle sait que tu le mets face n'importe lequel. Et moi, je pense réellement qu'aujourd'hui, ils ont surtout intérêt à pas avoir Mélenchon au deuxième tour ou en débat avec qui que ce soit parce que malheureusement, Mélenchon, je veux dire, les Prisca, Thévenot et compagnie, il les a mangés au petit déjeuner. Bardella, il va le retourner comme une chaussette parce que Mélenchon, c'est 70 ans de politique.
Oui, mais Mélenchon, c'est aussi beaucoup de morgue, d'agressivité, d'arrogance.
Oui, c'est l'homme politique le plus détesté en France dans les enquêtes d'opinion.
Mais il fait 25%.
Le parti qui est considéré aujourd'hui.
Il est franc encore.
Le parti considéré par les Français comme le plus dangereux, c'est la LFI. Donc au second tour.
Oui, par les Français qui écoutent.
Il y aura de l'abstention cette fois-ci. Le barrage républicain, tu peux toujours rêver.
Oui, mais on en reparlera.
Il y aura beaucoup de gens de droite, y compris de chez Macron, qui préféreront voter Le Pen ou Bardella que d'aller voter Mélenchon. Excuse-moi.
Mais on a un an et demi, on a un an et quelques mois de présidentiel. Je pense qu'on ne sait pas, tout n'est pas écrit.
Non, mais il y a un problème avec l'union des droites, parce que l'union des droites, il faut les LR. Aujourd'hui, les LR, ils sont en partie dans le gouvernement macroniste. Ils n'ont pas voté la censure parce que les députés LR ont eu peur de la dissolution. Bruno Retailleau a beau incarner une ligne beaucoup plus dure, on a du mal à voir où ils sont et on sait très bien qu'au municipal, il y aura des accords de deuxième tour entre les macronistes et les LR. Donc, c'est compliqué d'être à la fois tourné vers les macronistes, donc vers le centre, les centres droits et voire le centre gauche, et tourné vers une offre plus radicale, Reconquête ou RN.
Mais
c'est
pour ça que l'union des droites, c'est compliqué. La gauche, combien de divisions ? La droite, combien de divisions? Et d'ailleurs, elle le dit, il y a la droite bonapartiste, il y a la droite légitimiste, il y a la droite orléaniste, et elle explique pourquoi elle est un peu détroit. Et donc, justement, c'est ça qu'elle essaie de dire, c'est Marion Maréchal, je veux dire, elle dit je suis un peu de toutes ces droites, mais vous avez effectivement toujours eu un affrontement des droites.
Oui, sauf qu'ils arrivaient à se mettre d'accord au deuxième tour, là.
Et ben voilà, mais sauf que là, elle dit, c'est qu'il y a urgence. pour qu'il y ait cette union des droites. Mais cette union des droites, ça ne veut pas dire une fusion dans une seule des droites. Ce n'est pas les légitimistes qui vont gagner, ou les orléanistes, ou les bonapartistes.
Oui, mais ne valide pas ce que tu dis. Elle dit, je suis ni droite ni gauche. Quand tu lui dis, il faut réguler le nombre de fonctionnaires, elle lui dit, oh ben non, ça c'est des trucs, des vieilles recettes, et que c'est des trucs de droite. Donc, elle ne s'inscrit pas
à
là-dedans.
À suivre dans les GG, dans les grandes gueules, ce qui se passe en Autriche. Alors là, je suis sûr que ça va vous faire bondir sur le 32-16. Est-ce qu'il faut une formation obligatoire pour adopter un chien? Oui, vous avez bien entendu. En Autriche, ce sera une formation qui devra avoir 4 heures de formation théorique plus 2 heures de pratique dans l'année suivante. Une formation avant d'adopter en chien. Qu'en dites-vous? C'est au 32-16 que ça se passe. Il est midi moins 25.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
GG les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story avec aujourd'hui Bruno Poncé, Emmanuel Devilliers, Barbara Lefebvre. Il nous reste 10 minutes pour parler permis pour pouvoir adopter un chien.
Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Qui penche la tête?
Vous savez qui est-ce? Vous savez qui c'est ou pas?
Mireille.
Non.
Je dois m'en aller.
Je crois que c'est une adaptation d'ailleurs de How Much for That Doggy in the Window. C'est Lynn Renault.
Bien sûr. On embrasse. Alain, quand tu parles de chien, tu peux pas mettre les Stooges?
Oui, I wanna be your dog. Voilà. On peut trouver ça.
Bon, venons-en au sujet.
C'est l'Autriche qui se veut pionnière en la matière et qui veut que l'on et qui veut que l'on passe un permis pour pouvoir adopter un chien. Enfin, un permis, au moins avoir une formation.
Oui, et elle sera obligatoire si vous voulez adopter un chien en Autriche cette année. Ça va être appliqué là. Les futurs propriétaires devront obtenir une attestation de compétence qui comprendra 4 heures de formation théorique avant l'adoption et 2 heures de pratique dans l'année suivante. Les cours pourront aborder les obligations légales, les besoins de l'animal, les coûts, les vaccinations, l'éducation canine. En fait, pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte, en Autriche comme en France, qu'il y a des achats impulsifs d'animaux. Les gens, il est mignon ce petit chien, on va l'acheter. Il y a aussi beaucoup d'abandon, c'est quand même un drame. Et donc, c'est pour améliorer durablement le bien-être animal. Une période de transition est prévue pour les propriétaires actuels. Cette mesure concerne aussi certains reptiles, des amphibiens, des oiseaux, mais pas les chats. Je sais pas pourquoi pas les chats. Alors, si vous voulez adopter un reptile ou un chien, en Autriche, il faudra être formé. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en France?
Barbara, je te donne la parole en 3 secondes, parce qu'on a Gwenaëlle qui est gérante d'une pension canine.
Voilà.
Vous voulez réagir tout de suite au 32-16. Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour.
Vous êtes en Gironde. C'est une bonne idée ou pas?
Oui, j'adhère à 1000%.
Pourquoi?
Ben, en fait, alors comme a été dit là juste à l'instant, il y a l'achat compulsif qui, je trouve, depuis quelques années, donc je suis aussi éleveuse canin, et depuis quelques années, l'achat du chien est devenu comme un objet. En fait, pourquoi on prendrait pas un chien? Tiens, l'idée émane dans la famille, et puis on va chez un éleveur, on dit ce qu'on a envie de dire, parce que l'éleveur peut pas aller vérifier ce qui se passe à la maison, hein. Mais c'est tout mignon, c'est tout beau, et puis en fait, on se rend compte que le chien demande du temps, demande beaucoup d'argent, demande des investissements. Oh, on veut partir en vacances, mince, on a le chien, oh mince, il nous embête. Enfin, plein de choses qu'on pourrait mettre dans ce panier. Et donc, l'éducation, le comportement aux signaux, un chien qui va mordre, un chien qui est stressé, tout plein de choses. Et ça, c'est pas quelque chose qui est inné, ça s'apprend. Et donc, la formation pourrait mettre tout ça en avant de passer le cap et voilà, mettre devant la responsabilité vraiment en face de ces gens.
Et je pense que vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui pourrait très bien être inséré dans les apprentissages, les programmes scolaires, notamment en éducation civique, de commencer à apprendre aux enfants. Non, mais de commencer à expliquer aux enfants.
Non, mais vous avez tout à fait. Je me permets de vous couper, Barbara, pour dire que vous avez tout à fait raison. Et moi, à titre personnel, je vais dans une école de ma petite ville et je prends du temps où j'y vais avec des petits chiots et je fais une petite formation d'une heure à 3 classes où en fait on parle des signaux des chiens, mais qui soient des chiens qu'on voit dans la rue aussi, de ne pas aller se jeter sur eux parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Plein de petites choses quand le chien a quelque chose dans la bouche et le le petit enfant veut aller chercher ce petit os pour lui jeter. Mais le chien, il a sûrement pas envie qu'il lui prenne l'os dans la bouche. Plein de petites choses, mais ça s'apprend sur les, petits enfants.
Je pense que c'est important d'apprendre aux enfants à connaître aussi parce qu'on leur parle de la différence, etc., etc. Mais c'est important qu'ils comprennent l'univers perceptif des animaux. La perception qu'a un chien, qu'a un chat, qu'a un lapin de son environnement, c'est pas le même. Et d'ailleurs, même parfois, entre différentes races de chiens, c'est pas le même non plus. Quand vous allez adopter un malinois ou que vous allez adopter un chihuahua, c'est pas non plus tout à fait le même genre de comportement. Donc, c'est nécessaire. Bon, si on pouvait apprendre ça aux enfants de façon ludique, on n'a pas dit d'en faire des programmes scolaires. Attention, hein, calmons-nous. D'accord. Moi, je suis favorable d'abord les français, les maths, mais voilà, c'est parce que demain ils deviendront ces acheteurs d'animaux. Je rappellerai quand même le malinois, par exemple. C'est le chien le plus abandonné. Pourquoi ? Parce que c'est le chien qui a un chien extrêmement intelligent, qui a besoin de beaucoup d'exercices, qui a besoin de beaucoup de stimulation intellectuelle. Si vous ne donnez pas à un chien le niveau de stimulation, d'éducation, d'environnement, de sortie dont il a besoin, c'est des chiens qui vont être destructeurs, qui vont être mordeurs. Après, vous allez vous en plaindre.
Il n'y a pas que ça, Barbara.
Bien sûr qu'il n'y a pas que ça.
Non, mais le malinois, c'est surtout le chien des maîtres chiens. Oui. Et quand le mec, il perd le contrat, son chien, il n'en a plus besoin, donc il le fout à la...
Exactement, mais va voir dans les refuges, c'est beaucoup les molosses, les staffs, les rottweilers qui sont abandonnés, alors que c'est des chiens qu'on peut tout à fait avoir en famille si on a été soi-même formé à leur comportement.
Bien sûr qu'on peut être maximaliste en tout, et un spécialiste va forcément voir l'intérêt spécifique, mais on a eu des chiens depuis la nuit des temps sans avoir ce type d'autorisation, et la vie est peut-être assez compliquée pour pas s'astreindre à de telles démarches.
Comment avec un nouveau business,
ça s'appelait un permis de chien. Et aussi un élément incident, c'est qu'à ce moment-là, les chiens dans les refuges, ils seront beaucoup moins adoptés puisqu'il y aura cette démarche compliquante.
C'est toute la différence de ce que tu dis, parce que dans ce que tu dis, tu as raison. Le chien avant avait une fonction qui était une fonction utilitaire. Donc à la ferme, dans la vie, on avait le chien qui était entre guillemets adapté à l'utilisation qu'on voulait avoir de son chien. C'est plus la même chose aujourd'hui, le chien est un animal de compagnie. Donc tu ne peux pas avoir comme animal de compagnie un chien qui justement est un chien, un berger australien. Aujourd'hui la mode c'est le berger australien. Mais le berger australien il n'a rien à foutre sur un canapé. Un berger australien il est fait pour sortir, pour être dehors. Et la mode c'est quoi ? C'est les salons du chiot où on te vend des bergers australiens.
D'ailleurs, certaines associations.
Je vais dire interdit chez toi avec mon labrador et qui va chier par terre.
Mais pas de problème, je nettoie le pauvre.
Est-ce que pas quand même de créer un nouveau business, hein, j'imagine déjà les formateurs de chiens, etc. Une usine à gaz,
c'est-à-dire
d'obliger les gens d'aller voir une formation. Enfin,
je remercie Gonelle. Non, son travail aussi, ça, le fait auprès des écoles.
Ça existe dans plein de pays. En Allemagne, ça existe. En Suisse, ça existe. En Belgique, ça existe.
Moi, je trouve, pour avoir, et surtout, on est tous pareils à lire les faits divers dernièrement, je pense qu'il y a déjà aussi peut-être faire une formation aux futurs parents d'un enfant. Déjà, parce que quand on voit ce qui se passe pour des gamins, moi je trouve déjà, on commencerait déjà par ça, ce serait déjà pas mal. Et parce que quand je vois certaines choses, tu lis certains faits divers, ça te fait froid dans le dos sur des bébés. Et puis ensuite, après pour les animaux, moi je pense que c'est pareil. En fait, aujourd'hui la mode, alors les bergers australiens, il n'y a pas que, c'est le corgi, ça a été le bulldog anglais.
Le teckel,
ça c'est la mode en ce moment.
Le corgi, c'est comme un terrier, il a besoin de beaucoup courir.
C'est un chien de chasse.
Eh oui. Après,
c'est
petit. Bah voilà, alors les gens pensent que c'est du chien de canapé.
Les gens s'amusent avec leurs animaux
Comment tu as fait quand tu as eu ton chien? Est-ce que tu lui as fait une vraie éducation à ton chien?
En fait, c'est plus mon épouse et mes enfants. Je regrette d'ailleurs que les démarches en la matière aient été insuffisantes parce qu'il n'est pas aussi éduqué que je le souhaiterais personnellement. Mais si on reboucle l'ensemble de l'émission, bientôt c'est le chien avec son permis qui va apprendre aux enfants à pas faire de bruit dans les trains.
On aura des voitures SNCF, no kids, no dogs.
Moi, je ne suis pas le propriétaire de mon chien. Moi, je suis l'humaine de mes chiens, c'est-à-dire je suis leur compagnon, leur ami. Donc moi, c'est à moi de voir aussi comment, quels sont leurs besoins et de répondre à leurs besoins. Sinon, on prend pas de chien. Si tu sais pas t'adapter aussi à ton chien.
Oui, voilà. Enfin, à un moment donné, je veux dire, très bien. Mais
attendez, sur
le monde où le chien est roi, etc.
Mais il est pas roi, c'est juste que je l'accueille.
Lévi, bonjour. Laissez l'animal à sa place.
Attention.
À sa place.
Lévi, comportementaliste canin, bonjour.
Bonjour à tous. C'est très houleux. C'est un débat vif et c'est bien. Juste pour information, d'abord, le pays que vous avez cité, je me rappelle plus.
L'Autriche
n'est pas le premier pays à mettre en place un permis. Il y a l'Allemagne, par exemple à Berlin, ça existe déjà. et d'autres pays aussi. Voilà. Il faut savoir que il y a un projet de loi qui est en train d'être travaillé, puisque moi j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale avec Madame Vignon, et on est en train d'établir, on est en train de travailler sur un PPL sur le projet de mettre en place un permis à détenir des animaux de compagnie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a une réelle méconnaissance des gens sur les animaux, et en particulier les chiens, puisque moi je suis spécialiste dans le domaine canin, mais aujourd'hui, les vrais dangers, la vraie problématique, c'est la méconnaissance du chien et l'anthropomorphisme. Vous avez aujourd'hui ces deux cas de figure qui amènent une véritable problématique dans la relation homme-chien. Voilà. Et donc, on est en train de...
Quoi, expliquez-nous précisément.
La méconnaissance, bon, ça, évidemment, les gens ne savent pas comment fonctionne un chien, de chiots adultes, etc. Et l'anthropomorphisme, et ben, en fait, aujourd'hui, vous avez à peu près 80% des personnes qui sont propriétaires de chiens, qui considèrent leurs chiens comme leurs enfants, comme leur égal, comme un grand nombre. Sauf que le chien ne fonctionne pas comme ça. Et par conséquent, lorsque vous avez un chien que vous habillez, il suffit d'aller par exemple dans les magasins spécialisés, vous allez voir, on vous fournit des tototes, des poussettes, des peluches, des doudous, etc. On est dans l'anthropomorphisme, on considère vraiment le chien aujourd'hui comme notre égal, notre enfant, un membre à part de la famille. Alors on peut le considérer comme
c'est un membre à part entière de la famille. Voilà. Moi j'habille pas mes chiens, mais je les considère comme mes égaux.
C'est des
individus, oui, tout à fait. Ils sont laissés les sujets.
C'est pas des individus.
Mais je leur donne pas de totote et je les habille pas. Et je sais que c'est des chiens.
Une tétine.
Mais je suis pas d'accord avec ça parce que.
Une tétine, un clébard.
Mais il y a des gens qui sont complètement tarés, comme il y a des gens qui teignent les. Non, mais on peut considérer son chien comme son égal ou comme quelqu'un qui est un membre à part entière de la famille sans les prendre pour des êtres humains. Je n'aime pas qu'on caricature comme ça le truc avec le droit de vote et tout. Non, parce que c'est complètement idiot. Et à chaque fois, ça caricature le débat. C'est ridicule.
Tu t'auto-caricatures.
Faut-il une formation? C'est vous qui caricaturez. Et le chien n'est pas un objet.
C'est fini.
On doit dominer.
Faut-il une formation? Merci à Lévy. Une formation. En tout cas, on a entendu. On travaille à une proposition de loi justement sur cette affaire. Une formation obligatoire pour un chien. Oui, à 57% quasiment. Ma chère Estelle Denis, bonjour.
Salut Alain, salut les GG. On continue de débattre dans Estelle Midi. On va parler des Français moins riches que la moyenne européenne. Est-ce que vous vous sentez déclassé? Écoutez, venez nous dire tout ça au 32-16. On va parler également de cette pétition, 20 000 signatures pour interdire un aquarium en fait situé dans un centre Leclerc en Corse, un aquarium à requins.
Et pourquoi?
Mais c'est vrai, c'est
parce que inadmissible.
Et pourquoi donc?
Parce qu'un aquarium à requins est un animal sauvage.
Mais c'est très bien, ça permet de.
Et qui a eu cette idée complètement débile?
Ça existe à Dubaï, t'as des aquariums.
C'est débile, à l'Atlantis.
Incroyable. C'est débile. Un requin, c'est fait pour être dans la mer, tranquille.
Oh là là, mais on ne voit jamais dans ce cas-là.
Eh ben, t'as pas besoin de le voir. Tu veux le voir? Si tu veux le voir, va te baigner dedans.
Tu vas à la Réunion.
Alors,
continuons.
Est-ce qu'il faut en finir avec les aquariums publics? Oui, au nom du bien-être animal.
Oui.
Pourquoi ils sont malheureux? Alors ça, qui parle au nom du...
Alors à mon avis, le requin dans un aquarium, je pense qu'il n'est pas très heureux.
Ah bon, tu lui as demandé?
Non mais arrête. Non mais parce que là, tu vois, c'est bête ce que tu dis, parce que tu sais très bien qu'il y a des éthologues qui connaissent très bien les besoins spécifiques des animaux.
Va dans l'aquarium et montre-lui ton permis à chien.
Tout à fait, j'irai.
Attendez, Estelle, vas-y, continue, dépêche-toi.
Je vais vous donner direct mon dernier sujet. Il y a de plus en plus de plages privées en France. Il y a Martine Vassal qui voudrait faire payer les plages à Marseille 10, 20 ou 30 euros pour avoir un parasol ou un transat payant. Est-ce que vous trouvez ça génial ou scandaleux, les plages privées en France? Écoutez, on en parle avec vous à 14h.
Et tu préfères?
Tu préfères
crêpe ou galette?
Crêpe ou galette complète avec des pommes flambées au grand marin, avec modération.
Merci Emmanuel. Allez, bonne émission avec Estelle au 32-7.
Galette ou requin?
Tu préfères les galettes?
RMC, midi 15h. Estelle midi.